Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension, wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez le hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chain 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chain 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chain 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, quel bonheur d'être en votre compagnie sur les ondes de la conscience tous les vendredis à 5h et à 14h sur Radio Alger Chain 3 et sur x.com et notre page Au cœur de l'islam Chain 3. Nous avançons ensemble pour le meilleur des projets et le plus noble des objectifs et c'est celui de s'exposer au maître ultime, celui de se présenter ou de présenter sa meilleure version, de proposer une moudra des plus pures et des plus saines, mais ce n'est certainement pas aisé, bien sûr que le sentier est parsemé d'épines et d'embûches, sans compter les coups bas de l'ennemi primordial qui ne fléchit pas et qui ne désespère pas de nous avoir dans son giron. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est un terrible ennemi, hein, Kamel Shekat.
Naam. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, disait dans son oraison d'adieu, Inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Iblis, Satan a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre. Mais si vous vous laissiez aller aux petites choses, ou à ce que vous jugeriez négligeable, il s'en accommoderait.
لكنه
رضي فيما تحقرون أو فيما تحقرون من أعمالكم فخشوه على دينكم. Prenez en garde.
Son impact pourrait être grandiose sur nous.
Terrible, absolument, bien sûr. Satan, c'est une entité très très intelligente. Son intelligence, vous allez déjà en avoir une idée.
Intelligence ou ruse, Kamel Shekat?
Non, il est rusé, mais il est doué d'une science terrible. Hein. Imaginez, il défie Dieu et il dit dans son défi. فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ par ta grandeur, par ta magnificence.
Il le défie avec respect, Kamel Shekat.
En reconnaissant sa royauté, en reconnaissant sa seigneurie. رُبُوبِيَتَ
C'est lequel qui a été plus arrogant, l'humain finalement, ou Satan?
Satan a été plus arrogant,
d'accord.
Ne l'oublions pas, parce que Adam, après avoir succombé à la tentation d'Iblis, il s'est repenti à Dieu. Donc, et son repentir a été accepté. Sauf ceux qui sont vraiment sincères vis-à-vis de toi. Nous, par exemple, musulmans, algériens musulmans du 21e siècle, quand nous sommes dans une mosquée et que l'imam dit, par exemple, Dieu dit aux gens, Dieu dit aux croyants, nous mettons toujours dans la case des croyants, avec tous nos manquements. Vous n'avez qu'un seul verset dans le Coran où il est dit « Ayyuha alladhina kafaru » ou « Vous qui avez mécru »« La ta'tadhiru al-yawm » »« Ne vous excusez point aujourd'hui ». Le verset nous dresse une scène du jugement dernier. Et donc, nous nous mettons toujours au-dessus de la mêlée. Pourquoi ? Parce que nous avons très très bonne opinion de nous-mêmes et de ce que nous faisons, en dépit du fait que nous soyons, dans la majorité des cas, en porte-à-faux par rapport au commandement divin. Et donc, si vous vous laissez aller à ne pas observer ce que vous jugeriez négligeable ou minime en religion, c'est là où le diable va jouer. Et c'est là où il va tenter de vous induire en erreur. Donc il faut vraiment prendre garde contre Satan pour sa religion.
Que Dieu nous en préserve. Amin. Comme disait l'Arabi à l'approche de Omar ibn Khattab, l'Hamadjana, min qilla al-qalila.
Oui.
Omar ibn Khattab lui disait, mais Arabi, de quelle qilla tu parles? N'est-ce pas que Dieu dans le Coran dit wa qalilun min ibadiy al-shakur wa qalilun min ibadiy al-mu'minin wa qalilun min
à chaque fois que la minorité et la majorité sont citées dans le Coran, justement, la majorité est citée en mal et la minorité en bien.
Et nous sommes près de 2 milliards, nous sommes nombreux.
De musulmans, oui. Walakin lana ruta un karuta isail. Nous sommes comme cette écume que charrient les eaux, comme disait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam.
Alors, Kemashekat, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons continuer de parler de Matn al-Akhdari.
Rahmatullahi alayhi. Mukhtasar al-Akhdari fil ibadat.
Pourquoi revenir à la prière? Pourquoi la prière est si importante? Bientôt 15 siècles après, l'humanité a franchi des étapes des plus charnières, comme elle a pu réaliser des avancées spectaculaires. Elle est plus bénéfique pour un monde plus viable. À l'arrivée de l'islam, il y a près de 15 siècles, une plus-value a été amenée aux musulmans, mais pas que, puisque tout le monde en a tiré profit. Le monde entier a été transformé par les valeurs de l'islam, mais dans tout ce bouillon scientifique, culturel, intellectuel et que sais-je encore, certaines choses demeurent importantes et capitales, et les musulmans ne s'en défont pas, D-E-F-O-N-D, du verbe défaire. Les musulmans ne lâchent pas, à l'exemple de cette fameuse prière, justement, et que selon certains, c'est une adoration primitive, un carcan qui doit être dépassé aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'image du hijab, d'ailleurs, Kamel Chakat, à l'image du hijab qui, dans une anecdote racontée par Dalia Mujahid, l'ex-conseillère du président Obama, accusée de rester dans les vieilleries dépassées de l'islam, aujourd'hui encore, elle avait répondu qu'aux temps immémoriaux où les maladies, l'ignorance, l'obscurantisme régnaient en maître, les gens circulaient à moitié nus et même parfois en tenue d'Adam et d'Ève, mais que la science et le savoir exigeaient du respect pour soi et pour les autres, et le hijab était justement un des signes ostentatoires de la connaissance et du savoir. Pourquoi la prière demeure toujours importante et n'a pas été éliminée du culte, hein?
Écoutez, des spécialistes en sciences humaines, essentiellement des sociologues, se sont posés cette question au tout début des années 70. À un moment où, dans les sciences sociales, on commençait à avoir des associations de disciplines travaillées sur un même sujet. Et c'est de là que sont nées normalement ou apparemment les neurosciences. Un domaine qui regroupe une multitude de disciplines et qui c'est vraiment à la pointe de la technologie vu tous les instruments et le matériel qui est utilisé. Alors, on s'était posé la question sur un phénomène qui a été baptisé « believing without belonging », appartenance sans foi. On remarquait qu'en dépit du progrès scientifique que connaissait l'Europe, et en dépit du fait que les églises, essentiellement le catholicisme, avaient perdu du terrain, on continuait à avoir des gens assez assidus à tout ce qui a trait à la religion. Même si les gens n'allaient pas beaucoup à l'église, ils demeuraient chrétiens, dans l'âme carrément. On a commencé à se poser la question, bon, n'ayons pas de réponse, on a donné un nom à ce phénomène, « believing without belonging ». Appartenir à une foi sans pour autant appartenir à une obédience. Et donc, à partir de là, il y a eu, surtout aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, il y a eu la naissance de ce que l'on a baptisé par la suite les neurosciences. Certains extrémistes dans ce domaine ont même commencé à parler de neurothéologie. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler de foi comme étant une plus qu'une certitude. Bon, pour nous musulmans, quand nous lisons le Coran, quand nous parcourons la tradition prophétique, nous avons cette notion de fitra, d'inéité primordiale, qui revient très très souvent et selon laquelle l'être humain semble avoir été programmé pour croire en Dieu. Et c'est ce à quoi ont abouti les neurosciences. Cette foi en Dieu, elle est là, elle est bien présente, elle est palpable. À travers bon nombre d'expériences, on a pu remarquer que l'expérience religieuse donne lieu à des variations chimiques au niveau du cerveau. Donc, on suppose que l'être humain a une prédisposition à croire en quelque chose, à une divinité, à une forme de divinité, à une intelligence suprême, à défaut de croire en Dieu. Allah tel que nous l'appelons, tel que nous le reconnaissons à travers essentiellement les trois religions dites monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je cite les trois selon l'ordre chronologique. Et donc, la foi, elle est là. Et rien ne peut l'effacer, rien ne peut la retirer des mœurs, rien ne peut la retirer de l'esprit des gens. Elle est bien présente.
Mais ne peut-on pas, Kamal Chekat, être de bons croyants, de bons musulmans, sans être obligé de faire des pauses tout au long de la journée ou de la nuit, d'être comme ça à chaque fois, retardé dans ses tâches quotidiennes?
Par un acte cultuel, par une activité.
Voilà. On peut être connecté à Dieu juste par le cœur et l'esprit.
Le jour où les gens arriveront à se connecter les uns aux autres comme ça par le cœur et l'esprit, sans passer par les lois de la citoyenneté, sans passer par la bienséance, sans passer par le bon comportement, oui, peut-être que là, on arrivera à se connecter à Dieu sans passer par
être
le culte.
Être connecté, oui, à sa famille, à ses,
oui,
amis. Combien d'amis réels avant,
oui,
nous.
Oui, avant,
combien,
nous. Oui, c'est ça.
Donc, il y a beaucoup de gens. Nous autour d'un café.
Oui, il y a beaucoup de gens qui vous diront cela. Mais bon, en définitive, ramenez tout cela à vous-même et voyez si ça peut vraiment marcher.
Moi, je fais un fou, c'est
comme un fait la tour zéro. C'est ça.
Exactement.
Moi, quand on me parle de la prière, moi-même, je me pousse dans mes derniers retranchements. Je crois en Dieu, je suis convaincu qu'il y a un Dieu à qui je dois rendre un culte, notamment à travers la prière. Mais quand on étudie bien la prière avec tout ce qui l'accompagne, quand vous parlez de prière, vous parlez à la base d'une foi. Donc vous êtes dans la prière pour rendre un culte à quelqu'un, c'est-à-dire parce que vous allez adorer un Dieu, un créateur. Mais avec la prière, vous avez, avant la prière, vous avez une pureté rituelle. Ensuite, il devrait y avoir les conséquences ou l'incidence de cette prière sur vous-même en tant que personne, sur votre comportement. Donc, il y a une multitude d'aspects à prendre en considération. Alors, si je prends la prière comme un système, je dis bien un système, parce que quand vous étudiez les cinq piliers de l'islam, vous n'êtes plus dans une forme d'adoration simpliste, vous êtes dans des formes d'adoration très complexes et interconnectées entre elles.
Oui.
Aucune des cinq ne peut se dissocier des quatre autres. Et donc, à la limite, je me dis, et si Dieu n'existe pas, ou du moins quand je me pose cette question, et si Dieu n'existait pas, imaginons que nous sommes sur Terre pour un passage.
C'est pas du blasphème ce que vous nous demandez d'imaginer, Kamal Chekat?
Non, écoutez, en islam, il y a même un hadith jugé par certains faibles, où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous exhorte beaucoup plus à réfléchir sur ce que Dieu a créé plutôt que de réfléchir sur l'entité divine elle-même. Parce que de question en question, Iblis, qui est très subtil, va vous amener à vous poser la question sur l'existence de Dieu. Toi, d'où viens-tu? Moi, je procède de mes deux parents. Mes deux parents procèdent chacun de deux autres parents, ainsi de suite, donc, etc. Et puis, nous procédons tous d'Adam. Adam a été créé par Dieu, et Dieu, d'où vient-il? C'est la question finale. Et là, vous n'avez pas de réponse. Personne ne peut avoir de réponse.
Impasse.
Oui. Alors que si vous réfléchissez autrement, c'est-à-dire que si vous mettez en œuvre l'intelligence et la raison que dont Dieu vous a doté, pour réfléchir sur tout ça, vous allez aboutir à autre chose. Et vous allez vous rendre compte, que vous le vouliez ou non, qu'il y a un architecte, qu'il y a une intelligence suprême que nous appelons Dieu et qui a été à la base de toute cette création. Vous savez...
Vous dites ça parce que vous êtes un musulman, Kamal Chekat.
Je dis cela, bien sûr, parce que je suis musulman. C'est l'islam qui me pousse à réfléchir sur ça. En tout cas, l'islam, c'est la seule religion qui fait de la cogitation un devoir
Mais
religieux, une obligation.
Mais il n'y a pas que des musulmans qui nous écoutent, Kamal
Oui,
Chekat.
Ça, c'est pour le rappeler. Quand David Martin a écrit le Glossary Bible en 1741, il s'est posé cette question. Ne nous trouvons dans les deux testaments aucune référence à la raison, au cerveau, à l'intelligence. Dans le Coran, ça a commencé par Iqra et ensuite vous avez une multitude de versets qui vous exhortent à tout cela. Quand on parle justement de faire valoir cette raison, je ne peux pas parler de cela en tant que scientifique, mais si je me fie par exemple à l'auteur du fameux livre qui parle de l'existence de Dieu, Dieu, la science, l'épreuve à l'aube d'une nouvelle révolution, Bonassis. Le livre a été coécrit avec Yves-Michel Bolloré ou Michel-Yves Bolloré ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un best-seller quand même.
Pas le Bolloré de l'Union européenne.
Non, pas du tout, non. Et donc... quand il parle de cela, il cite entre autres Fred Hoyle, le fameux physicien, mathématicien britannique, qui dit que quand on médite la création, il y a un super créateur qui a créé les lois de l'univers. Et vous trouverez ce post sur YouTube, hein, très très court mais très très intelligent. Fred Hoyle nous dit que 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers émet la première lumière, il est d'une homogénéité absolument folle. Tout est à la même température qu'on mesure aujourd'hui à 2,725 degrés Kelvin. Il dit, mais il y a cependant des petites différences de température qui sont de, écoutez bien, 10 millièmes de degrés, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Si à la place de 10 puissance moins 5, il y a eu 10 puissance moins 4 ou 10 puissance moins 6, vous imaginez, donc la différence, elle se calcule au dixième du millième. Hein. Les galaxies ne pourraient pas se former, et s'il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a donc pas de vie. La répartition donc de la masse et de l'énergie est absolument délirante. Et c'est un point sur lequel revient le prix Nobel de 2020, qui est Roger Penrose, qui est un physicien, un mathématicien britannique. Vous savez, les gens qui nous parlent justement de la prière ou du fait d'adorer Dieu de manière péjorative reviennent toujours sur ça. On vous dit, normalement j'ai dû parler de cela à maintes reprises parce que je me souviens une fois qu'une personne, celle qu'on appelait péjorativement les rouges, les communistes, quelqu'un est venu me dire « Oh, toi qui passes ton temps à la mosquée, prouve-moi que Dieu existe. » J'ai dit « Moi, je suis un derwish, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je suis toujours dans un système de pensée archaïque, mais toi qui as un esprit éclairé, prouve-moi qu'il n'existe pas. Et je te suivrai. » Bah, c'est toi le réformateur, c'est à toi de me réformer. Et là, la personne, elle a bugué, elle a bloqué. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont pas d'argument. Maintenant, pour revenir à cette idée du hasard dans la création, idée par laquelle on veut annuler Dieu carrément, Fred Hoyle, l'astronome et physicien britannique, disait « La probabilité que des formes de vie supérieures aient émergé par l'évolution est comparable à celle d'une tornade balayant une décharge puisse assembler un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. » Il poursuit et dit « La formation de la vie à partir d'une matière inanimée est hautement improbable. » Parce que c'est ce que nous disent les évolutionnistes. Tout a commencé par un être unicellulaire qui s'est développé pour donner toute cette multitude de formes de vie qui existent. Alors lui, il dit que la chose est hautement improbable, soit moins d'une chance sur 1 million, assez pour mettre à mal Darwin et toute la théorie de l'évolution. Il n'y a pas eu de soupe primitive, ni sur cette planète, ni sur aucune autre. Et si les débuts de la vie n'ont pas été aléatoires, ils ont donc dû être le fruit délibéré d'une intelligence supérieure. Vous savez, dans le monde de la physique, de l'astrophysique, chez ces gens qui ont des PhD, c'est-à-dire qui sont philosophy doctor, des gens qui sont dans une spécialité très très pointue, mais que cette science exacte n'a pas sclérosé, comme nous le voyons chez certains dits scientifiques dans nos pays, dans les pays arabes ou dans les pays émergents, le type où le professeur, il est professeur de physique, et à partir de là, bon, les sciences humaines ne comptent plus. Mais non, c'est faux. Quand on est un astrophysicien, quand on est un chimiste de mérite, le cerveau ne peut pas se défaire de la philosophie ou du fait d'aller explorer d'autres champs qui s'inscrivent dans les sciences humaines. Quand vous étudiez les grands mathématiciens, les grands astronomes, les grands astrophysiciens et physiciens et j'en passe, c'est des gens que leur science a conduit à croire en l'existence d'un Dieu. Et dans ce chapitre, dans ce monde, le seul qui ait été quelque peu, on va dire, athéiste ou même évolutionniste, c'était Stephen Hawking, qui était quand même un esprit de génie. Même si actuellement, moi, quand on me parle des grands scientifiques, vous savez, Albert Einstein ou bien Isaac Newton, je les mets bien, bien derrière après le Biruni, qui est de loin l'un des plus grands, des plus brillants esprits que l'humanité ait connu, qu'on le veuille ou non. Alors Stephen Hawking, qui était dans une logique athéiste, disait « L'univers et ses lois semblent avoir été spécialement conçus pour nous, c'est-à-dire pour les humains et pour leur vie. Si l'une des 40 constantes physiques avait différé un tant soit peu, la vie, telle que nous la connaissons, n'aurait pas pu exister. Soit les atomes n'auraient pas été stables, soit ils ne se seraient pas combinés en molécules, l'univers se serait effondré avant même que la vie ne se développe. » Vous imaginez?
Pardon, Kamal Soukhat, il peut donc toujours continuer à parler de ce grand scientifique qui a été éclaboussé par l'affaire Epstein, donc un scientifique sans éthique.
Oui, science sans conscience, comme disait Rabelais, n'est que ruine de l'âme. « Wa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi » disait Hafid Ibrahim, rahmatullahi alayhi. Là, nous parlons de l'esprit scientifique. Ouais. Et nous le citons.
C'est un tout, hein, c'est un
oui,
tout.
Oui, c'est clair. Mais je cite Stephen Hawking, qui est l'auteur quand même de la théorie des cordes. Pourquoi ? Parce que dans son domaine, c'était un esprit brillant, mais vous le sortez de la physique ou de l'astrophysique, ça devient moins que rien.
Un simple humain.
Un simple humain, même plus simple que simple. Donc c'est ça. Maintenant, quand nous parlons de la prière, quand nous parlons de l'adoration de Dieu, nous sommes dans un système qui, à mon avis, même si Dieu n'existait pas, faradiyya, c'est une supposition, ce système ne pourrait que conduire l'humain au bonheur. Quand vous parlez de la prière, vous ne parlez pas de faits et gestes que les gens font de manière machinale. Et c'est pour cela que nous avons justement décidé de nous attaquer à ce monument, un petit opuscule de quelques pages qui pourrait changer la vie d'un homme. Pourquoi ? Parce que la question que nous devrions nous poser tous, est-ce que notre conformité à l'islam est au point ou pas ? Est-ce que ce que nous voyons dans nos sociétés comme mosquées, comme signes ostentatoires religieux, cette islamité que nous ne cessons de proclamer, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? C'est la question qu'il va falloir se poser. Et nous nous engageons dans la même logique que celle d'Abu Hamid al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, qui a décidé d'écrire son livre. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte à son époque que toute cette islamité n'était qu'un paravent, n'était que, je sais pas...
Vue de l'esprit ou une action qu'on entamait de façon machinale et qui n'avait pas un impact sur notre spiritualité,
sur
tout,
notre comportement,
tout notre monde intérieur et même extérieur. Kamal Chekat, je voudrais vous citer, avant d'entamer ce petit livre qui est immense hein, par son impact, excusez-moi de répéter ce terme deux fois, alors vous avez quelqu'un comme Imam Ahmed Mulhabel qui dit « إنما قدرهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك » Et vous avez quelqu'un d'autre, une autre sommité que nous citons beaucoup ces derniers temps, c'est Ibn Qayyim, qui nous dit « إذا أردت أن تدرك قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك » Quel est notre état, Kamal Chekat, avec la prière ?« ما حالنا مع الصلاة »
Justement, la deuxième citation est beaucoup plus claire que la première, ou bien les gens la comprendraient beaucoup mieux. Si tu veux savoir quelle est ton importance aux yeux de Dieu, interroge-toi sur l'importance que revêt la prière pour toi. C'est un bon indicateur, c'est un bon système de mesure. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quelle est votre place ou comment Dieu vous voit, voyez vous-même comment vous voyez votre prière. Si cette prière est hyper importante pour vous, vous avez donc beaucoup d'égards de la part de Dieu. Si ça n'est pas le cas, eh bien, vous ne valez absolument rien. Quant à l'imam Ahmed, « إِنَّمَا قَدَرُهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ عَلَى قَدْرِ حَضِهِمْ مِنَ الصَّلَاتِ » Ça veut dire que les gens n'ont de cet islam en termes d'appartenance, en termes de conformité, etc. Tout ceci se mesure à la manière dont ces gens-là vont aborder la prière. Et si vraiment les gens aiment cette religion, cet amour va se mesurer à leur amour quant à la prière. Donc, c'est un moyen qui pourrait vous permettre de vous connaître vous-même à travers ce que vous connaissez de vous-même quant à votre désir d'aller vers la prière ou bien votre amour pour la prière.
L'imam Ahmed Mouhab al-Kamal Chekat met deux mondes sur la balance, le monde de l'islam, ibadat, muamalat et tout ce qui s'ensuit avec salat.
Avec salat, parce que c'est le point de départ.
Ce n'est pas déséquilibré, Kamal Chekat ?
Non, absolument pas.
Donc l'islam, c'est la prière.
Vous savez, nous avons un hadith rapporté, c'est d'ailleurs dans la compilation de l'imam Nawawi, c'est le 29e hadith. Il nous est rapporté entre autres par l'imam Tirmidhi d'après Mu'ad ibn Jabal, qui a dit « Qultu ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni min an-nar » Au messager de Dieu, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne du feu. « Qal, laqad sa'alta an 'azim » وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Tu viens d'interroger sur une très grosse affaire, mais qui est cependant aisée pour qui Dieu l'a rendue aisée. Là, nous sommes déjà dans une logique qui dit كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Nous avons tous été prédisposés pour ce pourquoi nous avons été créés. Là, quand Dieu vous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِرِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَرَزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Nous venons de parler des neurosciences qui tendent à démontrer et à prouver que l'homme semble avoir été programmé pour croire en Dieu. Ça rejoint justement cette idée. كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Nous avons tous été prédisposés pour la tâche que Dieu nous a rendue obligatoire.
Et puis ça rejoint le verset وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ.
C'est ouais. Oui, c'est quelque chose.
Et là,
de,
il parle de Adim dans le hadith.
De, oui. Et là, il commence à lui énumérer les choses qui vont le rapprocher du paradis et l'éloigner du feu.
قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.
Nous sommes dans les cinq piliers de l'islam. Tu adores Dieu sans rien lui associer. Tu fais correctement la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu accomplis le pèlerinage si tu en as les moyens. Donc il y a une citation de la prière déjà à ce stade.
ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ.
Veux-tu que je t'indique les voies ou les portes du bien ?
قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاتُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى يَعْمَلُونَ سُورَةُ السِّجْدَةِ.
Veux-tu que je t'indique les portes du bien ? Le jeûne est une préservation de l'enfer. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et la prière au cœur de la nuit. Alors, au début, nous avons la prière obligatoire. Là, nous sommes dans la prière surérogatoire, nafila. Prière nocturne. Salatul layl, qiyamul layl.
Dans un hadith Sharaf al-Mu'min.
Oui. Et là, le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, se mit à réciter des versets de Sourate Sajda qui font l'éloge de ceux qui prient pendant la nuit, Qiyam al-Layl, et qui disent, on parle des versets, « Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Donc vous avez une deuxième citation de la prière, donc deux paliers, prière obligatoire, ensuite prière surérogatoire.
« ثم قال, ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله.
Ne veux-tu pas que je t'indique le summum de toute chose, sa base et son paroxysme ? Je dis bien sûr que oui au messager de Dieu.
قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.
Il dit le summum de toute chose c'est l'islam, sa base c'est la prière. Donc une troisième référence à la prière dans un même hadith. Alors là, il dit « وَدِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ ». دِرْوَةُ السَّنَامِ. Sanam, c'est la bosse du chameau, donc c'est, la, c'est le par, son paroxysme.
Le...
Oui. Là, il dit « le jihad », bon, beaucoup traduisent cela, c'est le combat au service de Dieu. Il serait plus juste de dire la lutte au service de Dieu, parce que le jihad, le premier jihad, c'est lutter contre les suggestions de son âme. Donc,
mais ce n'est pas précisé dans le hadith Kam Shikati.
Comment ?
Juste le jihad.
Oui. Il dit le djihad.
Ni asghar ni akbar.
Oui, c'est toutes les formes.
Que devrions-nous comprendre ?
Ça veut dire que vous êtes d'entrée de jeu dans les 12 formes, les 12 positions du djihad. Ça commence par la lutte contre les mauvaises suggestions de l'âme et ça se termine par, je ne sais plus quelle forme de djihad, en tout cas le djihad qui signifie combat avec les armes au service de Dieu, vient en 9e position. Vous avez une référence à 3 reprises à la prière. La prière, c'est la base de toute chose, qu'on le veuille ou non. Ça commence par toute une prédisposition, comme nous le verrons avec Murtasar al-Akhdari. Et ensuite, vous êtes plein pied dans la prière. Et voilà donc cette idée qui me dit, moi personnellement, et si Dieu n'existait pas. Vous savez, quand vous faites vos ablutions, la chose ne consiste pas à se... Bien sûr, nous appelons cela une purification. Mais tahara, il y a 2 types. Alors, il y a la pureté physique et il y a la pureté virtuelle. Tahara al-hissiya. Et à ce moment-là, quand je fais mes ablutions, est-ce que je suis dans une démarche qui consiste à me rendre propre avant de passer à la prière ou est-ce tout simplement un rituel qui me met dans une sorte de prédisposition beaucoup plus mentale que physique ou d'ordre, on va dire, hygiénique ? Les savants de l'islam l'islam vous parle d'un culte que vous rendez à Dieu, ibadatun ghayru ma'qulatil ma'na, donc un culte à vocation ou à but non révélé, et pour preuve, si la chose consistait à se laver, à devenir propre, on n'aurait pas eu recours aux ablutions sèches, on ne serait pas allé taper de la poussière ou de la terre propre, parce que ça ne va pas vous rendre plus propre que vous ne l'étiez avant. Et donc, la gestuelle que vous allez faire pendant vos ablutions, si vous faisiez un tant soit peu un petit parallèle avec certains actes de la médecine chinoise, vous allez vous rendre compte que passer les mains sur certaines parties du corps avec en faisant ces frictions que vous faites, ça rejoint un peu les différents massages que nous retrouvons dans la médecine chinoise. Et nous allons y revenir, Inch'Allah. Ensuite, quand vous êtes dans votre prière, les différentes positions, inclinaison, prosternation, la position debout, etc., ça vous met en rapport avec les ondes cosmiques. Ensuite, quand vous avez le front collé au sol, vous êtes en rapport avec les ondes telluriques. Et tout ça, ça a un impact sur
vous. 7 emplacements.
Oui, les 7 emplacements pendant la prosternation. Oui. Ensuite, cette prière, une fois qu'elle est terminée, elle doit avoir une incidence sur votre comportement. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Si l'on revoyait un peu tous les textes inhérents au mérite de la prière, vous allez vous rendre compte que tous ces textes vous mettent plein pied dans le contrat social. Alors honnêtement, même si Dieu n'existait pas, cette gymnastique, ce yoga, c'est du Qigong en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose d'hautement élaboré. Si vous prenez tout cela, et que vous étudiez ensuite les débordements, entre guillemets, de toute cette activité sur le plan social, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un système qui ne pourrait être que pris comme référence pour toute l'humanité. Pourquoi ? Pour les bienfaits, pour toutes les bonnes choses qu'il pourrait occasionner pour tout le monde. Maintenant, nous partons du principe que notre présence sur Terre, c'est tout simplement un passage, que cette idée de mort, la mort en elle-même n'est pas une rupture de la vie, c'est une transition entre une forme de vie telle que nous la connaissons vers d'autres formes de vie qui sont éternelles et que nous ne connaissons pas encore et qui s'inscrivent dans ce que nous appelons ou ce que nous pourrions appeler la vérité vraie. فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Le jour de la résurrection, nous allons ouvrir les yeux sur quelque chose de vrai, sur des réalités dont nous avions connaissance mais que nous ne soupçonnions même pas. Et c'est ça qui est intéressant.
Marhaba bikoum dans Au cœur de l'islam sur les ondes positives de Radio Alger Chaîne 3 et merci de faire un tour du côté des réseaux sociaux et notre page sur x.com. Alors aujourd'hui nous entamons l'étude du Mukhtasar al-Ibadat de l'imam al-Akhdari, un alim algérien dont on ne parle que très peu alors que son livre est l'objet d'études de beaucoup de grands savants, que ce soit pour les débutants ou même les plus confirmés. C'est
les
un
plus
livre
aboutis, oui,
oui, c'est un livre, comme disait Cheikh Ramil Maliki dans sa présentation de ce livret extraordinaire, c'est un livre qui est étudié au cœur des terres musulmanes jusqu'au cœur de la Area Bay en Californie aux États-Unis.
Oui, c'est muqarrar fil Azhar fil Zaytouna dans les plus grandes universités.
Qui a été l'imam al-Akhdari Kamel Chekat et pourquoi nous ne parlons que rarement des grands savants algériens et ils sont nombreux, Kamel Chekat.
Ils sont nombreux à être les pionniers dans pas mal de sciences.
Les pionniers?
Oui, nous en avons déjà parlé. Le premier interprète de Sahih al-Bukhari était un grand savant, Biskri, l'imam Dawidi, le premier à avoir composé un recueil versifié à plus de 1000 vers dans le domaine de la grammaire. C'est Ibn Mu'tiziwawi, donc un savant de Bejaïa. Nous avons comme ça le premier à avoir écrit dans Ilm al-Qira'at, dans tous les modes de lecture, c'est aussi un savant algérien. Là, quand nous parlons de l'imam al-Akhdari, alors, c'était déjà un savant théologien, issu d'une famille connue pour sa science. C'est un savant du 10e siècle de l'Égypte, 16e siècle, début du 16e siècle de l'ère chrétien. Il est né en 1514. Il était du côté de Biskra. Il était connu pour être un savant théologien. Il était connu aussi pour être un astronome. Il a étudié l'astronomie. Il a, par exemple, entre autres, Nadm Siraj fi ilm al-Falak, c'est un recueil versifié. Il a aussi Nadm Azhur al-Matalib fi hayat al-Aflak wal-Kawakib fi ilm al-Astrolabe, donc l'astrolabe. Il a ce fameux Matn al-Akhdari fi al-Ibadat qui est un petit recueil, un petit
opuscule. Peut-être le plus insignifiant de tout ce qu'il a pu produire.
Absolument.
Comme
sens. Il a aussi un autre recueil versifié qui s'intitule Sulam al-Murawnaq fi ilm al-Mantiq. C'est un livre qui traite de la logique. Donc c'était aussi un logicien. Et il a aussi un livre que nous avons étudié avec Cheikh Tariq Al-Jad qui s'intitule La Yarhamou Nadm al-Jawahir al-Maknoun fi thalathati funun, qui est un livre qui traite de rhétorique, d'éloquence et de tout ce qui s'y rapporte dans la langue arabe.
Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce grand savant.
Absolument.
Comme on ne peut pas faire l'impasse sur Abdelrahman ibn Rustam, qui a été un des premiers donc Mufassirin du Coran, en l'an 190 de l'Hégire.
Oui.
On n'en parle que très peu, Kamashikat. Oui. Le premier en Afrique du Nord.
Le problème est là. Le problème est que je me souviens quand j'ai traduit le fameux livre Ulama min Zouawa, savant de Zouawa de notre maître, professeur Bel-Alam, Rabbi Hafdo. Il dit d'ailleurs dans son introduction, alors parce qu'il a fait ses études à Dimashq, en Syrie, il a dit une fois, il discutait avec un grand savant connu, dont le nom m'échappe, et il lui dit, « Cheikh, pourquoi vous ne parlez pas dans toutes ces biographies? Pourquoi vous ne citez pas les savants de l'Algérie? Pourtant, ils sont nombreux et c'était des gens qui ont marqué le monde musulman dans sa globalité. » Il a dit, « Nous parlons de nos savants. C'est à vous de parler des vôtres. » Le patrimoine immatériel d'une nation, il n'est vivant que quand la nation est vivante. Si elle meurt, il meurt avec elle. C'est ça.
Nous retrouvons ce concept dans la fameuse phrase de Dédouche Mourad, la Yarhamo, préserver notre mémoire.
C'est ça. Et le problème, c'est que nous, par exemple, actuellement, même si vous allez dans nos CEM et dans nos lycées, l'histoire, c'est une discipline qui n'a aucune importance.
Ouais. Alors qu'elle a un coefficient de 6 chez l'entité sioniste.
Normalement.
Dans un article de Dr Doumir Kamalchekat, vous avez des noms dont on n'a jamais entendu parler, du moins je parle de moi, la néophyte, l'imam Abdelrahman ibn Rostom, Cheikh Houd ibn Houari.
Houd ibn Muhakim.
250 de l'Hégire, qui a fait l'exégèse du Coran.
Il a fait une exégèse en 4 volumes, qui a été éditée pour la première fois lors de la manifestation de Tlemcen. Capitale de la culture islamique.
2013.
C'est ça, un très très beau livre. C'est un ibadite, Houd ibn Muhakim. Et à l'époque, les ibadites étaient sur le mu'tazilisme. L'école a connu une évolution par la suite, mais il n'en demeure pas moins que c'est une exégète qui fait partie du patrimoine algérien.
Le titre de son ouvrage, c'est Tafsir Kitab al-Aziz.
Oui, je l'ai. C'est en quatre volumes.
Vous avez l'imam Ahmed ben Ali al-Bara'i. درس علوم القرآن في الأندلس وقدم للإقراء في جامعة قرطبة أبو جعفر أحمد بن ناصر الداويدي.
داويدي qui est le premier à avoir fait l'interprétation de Sahih al-Bukhari.
والنامي في شرح الموطأ.
Vous savez, les savants de l'époque avaient peur de s'attaquer à Sahih al-Bukhari. C'était un monument.
Lui, il a osé.
Oui, il l'a fait et il reste des bribes de ce livre. Vous savez, tout récemment, il y a peut-être une dizaine d'années. En tout cas, c'est un chercheur des pays du Golfe, je pense qu'il est saoudien, qui est tombé sur un manuscrit en Allemagne, un manuscrit en 7 volumes d'un livre de fiqh, donc de droit cultuel et de jurisprudence, écrit par un certain Ibn Battal al-Jazairi. Et on se rend compte...
Jazairi,
oui, bien sûr.
Je pensais que l'Algérie a été fondée après 1830, Kamalchekat.
Oui, si vous vous fiez à un certain Lugan, qui dit n'importe quoi. Même moi, je deviens historien quand je vois Lugan parler. Oui. Et donc, c'est un livre plus qu'intéressant dans la mesure où il vous présente le fiqh d'une manière admirable. Et Ibn Battal, c'est plus qu'une référence. Son livre, il est à la hauteur de Fath al-Bari d'Ibn Hajar, même qu'il le dépasse un peu. Et donc, oui, ce pays a connu ses savants. Même maintenant, quand vous allez à Tombouctou, la majorité des œuvres de ce que l'on appelait à l'époque « ulama al-sahara », à l'image de l'Ouincharisi Sahib al-Miryar, c'était des savants de cette partie qu'on appelle actuellement l'Algérie, qu'on le veuille ou non.
Donc le savoir s'est étendu sur tout Bilad Soudan et...
Absolument, jusqu'à Bilad Tkrour, c'est-à-dire le Soudan, l'Érythrée et j'en passe.
Alors, Dr Doumir nous cite aussi Yusuf bin Mohamed Aboulfadl de la Qal'a de Bni Hamad, spécialiste dans le fiqh, Yusuf bin Ibrahim Louar Jalani, من علماء الباضين في القرن السادس هجري. Il a eu un grand ouvrage de tafsir في 70 جزءا.
Oui. Quand vous dites juz, ça peut vouloir dire 70 tomes, comme ça peut en faire une dizaine ou une quinzaine qu'il a segmenté en 70 parties.
Il évoque aussi notre ami Doumir, docteur Doumir, Abdelrahman Ta'alibi, plus connu, oui, Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili, que vous citez énormément, Kamel Chakal.
Il est très important de faire une petite pause avec Abdelkrim Al-Maghili, rahmatullahi alayh. C'est un grand savant théologien qui s'impliquait fortement dans la vie sociale. C'est lui qui a pu mettre fin à l'hégémonie des usuriers juifs de son époque, qui étaient à deux points de massacrer, financièrement parlant, les musulmans d'Algérie, d'Afrique du Nord. Il a mis fin à leur hégémonie, il les a combattus à fond, il les a poursuivis jusqu'à Touat. Ensuite, c'est lui qui a propager l'islam via un certain nombre de ses écrits. Il est à la base de la majorité des chartes qu'a connue l'Afrique, notamment l'actuel Nigeria. Ça peut aller jusqu'au Darfour. Et le problème, c'est que il y a un centre.
Décrié aujourd'hui.
Oui, il y a un centre dit méditerranéen, dirigé par des chercheurs essentiellement français, avec des vendus de nos pays, et autant les pays d'Afrique du Nord que les pays de la zone subsaharienne, tels que le Mali, etc., qui sont toujours en train de faire tout un travail de sape pour le présenter sous la forme la plus sombre qui soit.
Qu'est-ce qui les fait courir, tout ce beau monde, Kamel Chakat? Pourquoi tout ça?
C'est la chasse à la gamelle, en fait. C'est des gens qui se nourrissent des miettes qu'ils pourraient
retrouver.
Parce
que les marchands du temple sont très généreux avec
Absolument.
Ces gens-là.
Oui, mais de quelle générosité parlez-vous? Contre une tonne d'or, on vous donne un dixième d'une pièce d'une valeur de 4,3 grammes.
Mais est-ce que ça en vaut la peine, Kamel Chakat?
Et vous savez, quand on est animé par la culture du tube digestif, oui. Quand on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, oui. Et actuellement, il y a une sorte de secte qui s'appelle les Makites ou les Mekites. Les Makites, je pense.
Qui sont
là, oui, qui parlent, qui vous disent, voilà, l'Afrique aux Africains noirs.
Pas de blancs.
Pas de blancs, pas de musulmans surtout, pas d'arabes. L'islam n'a rien apporté de bon. Nous étions des civilisations avant l'islam. Et ces gens-là oublient, par exemple, que le Mali, le grand royaume du Mali, a connu des sommités comme Mansa Moussa, qui s'est défait du pouvoir pour aller vers le continent américain à la tête, normalement, je ne sais plus si c'était 200 ou 400 navires, de son navire pour les armées et la composante humaine et 200 autres navires pour les vivres. Et maintenant, nous savons de par l'archéologie aux États-Unis que la forme la plus ancienne de vie est une forme dite négroïde. Donc les Noirs étaient là bien bien avant qu'on ne le pense et bien avant surtout que Christophe Colomb. Et ces gens-là oublient aussi que cet islam a produit au Mali l'une des plus belles chartes des droits de l'homme connue jusqu'à présent et qui était la charte du Mandé, initiée par Soundiata Keïta à partir de 1225 ou 1235, quelque chose comme ça.
Donc, Sénégal, Kamel Chakat, hein, dont on connaît la grande histoire de Cheikh Omar Fouti Youtal.
Fouti, oui. Oui, absolument, absolument.
Ou les Si, ou les Tijania, là, donc l'avancée de la Tijania au Sénégal.
Oui.
Kamel Chakat, il y a aujourd'hui le fils de Cheikh Marili, qui est très inspirant pour la jeunesse algérienne aujourd'hui, surtout celle du Sud, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui partent du Nord vers le sud, justement à la rencontre de Cheikh Al-Ansari et Cheikh Al-Maghili.
Parce que là-bas, vous allez étudier selon le modèle qui était celui des grands savants algériens tels que Cheikh Tahrir Al-Jat, Cheikh Belkbir, Cheikh Izgmir, etc.
Il n'en reste pas beaucoup, Kamel Chakat.
Il y a une bonne relève, ne vous en faites pas. Il y a une très très bonne relève. Des gens vraiment qui sont à la hauteur de l'héritage qui leur a été légué par leur propre maître.
Donc on est encore loin du hadith eschatologique qu'a cité le prophète alayhi salatu wasalam par rapport à
l'élévation de la science par la disparition des savants. Non, nous sommes déjà dans ce hadith. Ah. Parce que bon, quand on parle de savants et de science, la science est pratiquement inexistante dans nos sociétés par rapport à ce qu'elle l'était depuis l'avènement de l'islam jusqu'à il y a de cela 2-3 siècles, c'est-à-dire juste avant le début de la grande période coloniale, la période d'ensauvagement enclenchée essentiellement par les Britanniques et les Français.
Le congrès de Berlin.
Mais il y a encore, il reste quand même des
khir baqi fihom. Kamal Chekat, alors docteur Doumer nous cite un des grands ouvrages de Abdelkrim el-Maghribi qui est le Bedr el-Munir fi ouloum at-tafsir. On a aussi Ahmed ben Mohamed el-Maqarri Telmsani. Avec sa mawsoua, il parle d'une mawsoua, Nafh al-Tib. Il a justement dispensé des cours dans les plus grandes mosquées, universités en Égypte et au Cham. Abu Bakr al-Jazairi, qui a beaucoup enseigné dans la mosquée du prophète Sidna Mohamed alayhi salatu wasalam. Il a été enterré au Baqi'a. Quelle chance a-t-il eu? Et d'autres, Kamal Chekat, on n'a pas le droit de taire ces grandes personnalités, ces grands noms de l'islam et du savoir.
Absolument.
De la connaissance.
Vous savez, si nous avons choisi justement ce livre, Mukhtasar al-Ibadat de l'imam al-Ardali, c'est parce qu'il s'inscrit dans la logique qui est celle des malikites. Vous savez, dans l'école malikite et chez les hanafites, une personne qui ne fait pas la prière est une personne qu'on considère comme étant désobéissante et non comme... mécréante, abjurée. À l'inverse de ce qui a été dicté par l'école hanbalite et shafirite.
On parle d'un certain extrémisme chez les malikites. Hein.
Bien sûr, c'est le cas de tout le monde. Dans toutes les écoles, vous avez une frange d'extrémistes, des gens qui sont un peu fanatiques, qui sont plus royalistes que le roi, dans la mesure où ils veulent être plus malikites que l'imam Malik lui-même. Mais il n'en demeure pas moins que lui, la prière telle qu'il la présente, c'est quelque chose qui devrait se faire dans le but de se parfaire et de parfaire son entourage. Et pour aborder cette prière ou pour que cette prière se voit agréée par Dieu, il faut qu'elle soit bien entourée par un bon comportement, par la sincérité, par une bonne conformité à tous les préceptes de la religion. Par contre, si vous allez dans la fatwa des Hanbalites, par exemple, vous allez retrouver, comme c'est le cas dans les pays du Golfe, beaucoup de gens qui font leur prière, qui sont très assidus à la prière, qui font la prière de l'aube dans la mosquée et au moment indiqué, mais qui, avant d'aller à la mosquée, peuvent se retrouver dans un bar à s'enivrer à volonté. Parce que le plus important pour eux, c'est de faire la prière. Maintenant, ce qu'ils font à côté de la prière passe au second plan. Pourquoi ? Oui. Parce que pour eux, ils ont fait la prière, ils ont rendu à Dieu ce qui lui était dû. Et à partir de là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Dans le hadith que vous avez cité en première partie et que vous n'avez pas terminé l'explication.
Oui, parce que à la fin, il dit le message est de
Dieu. Relisez-le s'il vous plaît, comme le Shikat en entier, s'il vous plaît.
Alors il est dit, c'est Mu'ad ibn Jabal qui dit, j'ai dit une fois au messager de Dieu, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Il dit, tu viens d'interroger sur une très grosse affaire, mais qui est cependant aisée, pour qui Dieu l'a rendue aisée. Tu adores Dieu sans rien lui associer, tu fais correctement la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu as accompli le pèlerinage si tu en as les moyens. Puis il ajouta, veux-tu que je t'indique les portes du bien ? Le jeûne est une préservation de l'enfer, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu et la prière au cœur de la nuit. Et là le prophète alayhi salatu salam se mit à réciter des versets de sourate Sajda qui font l'éloge de ceux qui prient pendant la nuit et qui disent, seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en parlant de l'au-delà bien entendu, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Puis il dit, veux-tu que je t'indique le summum de toute chose, sa base et son paroxysme. Je dis bien sûr que oui au messager de Dieu. Il dit, le summum de toute chose est l'islam, sa base est la prière, son paroxysme est le combat au service de Dieu. Ensuite, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, dit, pour clôturer, « Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, qultu bala ya Rasulallah. » Fa'akhada bilisanihi qal, kuffa alayka hada, qultu ya Rasulallah. » وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم Puis il dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel de tout cela ? Je dis, bien sûr que oui, au messager de Dieu. Il saisit sa langue et dit, mets un frein à celle-ci. Je dis au messager de Dieu, sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons ? Il dit, que ta mère te perd. Les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que pour les récoltes de leur langue ? L'aboutissement est un comportement qui fait de vous un vecteur de paix, un vecteur de paix sociale, silmijtimaï. Même votre langue ne peut attaquer les gens. Et ça, honnêtement, si vous lisez Sifat Salat Nabi chez l'imam Ibn al-Qayyim, ou selon ce qui a été écrit par l'école, les adeptes de l'école Hanbalite, nous avons les plus récents, vous avez une multitude de livres de ce genre, et puis certains sont allés jusqu'à dire Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam ka'annaka tara. La manière dont le messager de Dieu faisait sa prière, comme si tu le voyais. Et ces gens-là vont dans des choix qui sont les leurs, mais qu'ils veulent imposer à tout le monde. Soit tu fais comme ça, soit tu es en porte-à-faux par rapport à ce que faisait le messager de Dieu. Et le plus important, c'est d'aller justement vers cette gestuelle. Le reste ne vient qu'en second plan. Ou ne prend que la seconde, qu'une place, on va dire, subordonnée à celle d'accomplir la prière. Et tout ça, c'est faux. Cette prière, si elle ne fait pas de vous un bon citoyen, tout simplement, elle ne sert absolument à rien.
Dans la rafla et dans la présence de Dieu, donc oui. En conscience aboutie, est-ce que si on arrive à accomplir la salat, même dans la rafla, on finira par être dans la présence?
Oui, à condition d'aller vers cette prière en y mettant le cœur. C'est-à-dire que, avec tous mes défauts, toutes mes faiblesses, avec tout ce qui fait de moi un être humain, c'est-à-dire quelqu'un de faillible, si je vais vers Dieu avec avec sincérité, avec une bonne intention, cette prière ne pourrait que m'amener à m'améliorer, à rehausser un peu ma foi, mon état de conscience.
Mais faillibles, nous sommes tous faillibles.
Nous le resterons de toute manière. Mais il y a parmi nous des gens qui n'ont pas fait les grandes universités, qui n'ont pas fait Saint-Cyr, comme dirait l'autre, mais qui ont un comportement qui est celui des prophètes.
Nos parents, nos grands-parents. Que dire, Kamal Chakat, d'une vieille dame qui, à l'âge de plus de 80 ans, est devenue, certains l'appellent, disent qu'elle est sénile, certains disent qu'elle a perdu la mémoire, mais au moment de la prière, juste avant, elle a déjà fait ses ablutions, prête pour la prière, oui. Et elle est bien concentrée, alors qu'on la traite de folle, oui. Et de mémoire absente.
Nous avons même vu des cas de personnes qui étaient dans des états d'inconscience, presque dans des états comateux, et qui, au moment de la prière, faisaient les gestes de la prière, ou bien à l'écoute de l'adhan, certains dans des hôpitaux, là où on pouvait entendre l'adhan de l'extérieur, au moment même de l'adhan, vous avez la personne qui commence à trembloter, à vibrer, parce que elle est conditionnée par la prière qui doit se faire en temps opportun.
Conditionné, c'est pas péjoratif ce sens dans la salat?
Non, puisque nous partons du principe qu'il y a une prédisposition mentale à l'adoration de Dieu. Nous sommes conditionnés, qu'on le veuille ou non. Imaginez que nous n'ayons pas eu cette fitra, cette innéité dont nous parle le Coran. Croiriez-vous que les gens iraient vers cette adoration de Dieu avec autant de facilité que celle qu'on remarque chez les gens? Je pense que non.
Avec tout ce qui se passe en Palestine, Kamal Chakat, les gens continuent d'aller en mosquée au Absolument. Risque de se faire bombarder en pleine salat. On l'a vu à maintes reprises.
Oui, et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur aux détracteurs de l'islam.
Donc c'est à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il passait par une période difficile, se retranchait dans la prière.
Il allait vers la prière, oui.
Donc ces Palestiniens sont des êtres mohammadiens plus que nous.
Oui, c'est peut-être des gens qui retrouvent dans la prière ce refuge dont parlait le messager de Dieu quand il disait à Bilal, « Arihna biha ya Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal ».
Je vous remercie, Kamal Chakat. C'est donc la fin de ce numéro consacré à la prière canonique à travers l'étude de Mukhtasar al-Ibadat de l'imam al-Akhdari, un grand savant algérien. Oui, je vous remercie, Kamal Chakat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de faire un tour du côté de x.com sur notre page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Et à vendredi prochain. Au revoir.